Ainsi se termine notre voyage dans l'Odyssée du rythme. Encore merci à Nicolas Fiche pour la réalisation technique de cette émission. Pour retrouver l'ensemble des titres que nous
voulons... Vous écoutez CILS FM,
l'unique radio communautaire francophone et francophile de Colombie-Britannique.
Mardi 26 juillet, il est 16h, 23 degrés à Victoria, 21 degrés à l'aéroport. C'est parti pour une nouvelle édition du Débrief. Alexis Gagnon avec vous pour la prochaine heure. En interview aujourd'hui, Louis Gagnon, un résident de Milan en Italie, nous parle de deux référendums qui ont occupé le calendrier démocratique italien ces derniers temps. L'un d'eux, le plus important, aura lieu cet automne et engage la survie politique du premier ministre Matteo Renzi. Restez à l'écoute, ce sera vers 16h40. On lance tout de suite les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine et on se retrouve dans quelques minutes pour les nouvelles provinciales et régionales notamment. Bonne émission! La production du Débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le gouvernement du Canada rappelle sur son site Internet que les provinces et les territoires jouent un rôle important dans le domaine du logement et qu'il désire travailler avec ces derniers pour élaborer une nouvelle stratégie pan-canadienne. Le gouvernement invite ainsi les gens à répondre à un bref sondage en ligne en faisant part de leurs idées audacieuses et innovantes avant le 21 octobre, a souligné le gouvernement. Il est également possible de répondre par écrit via la poste. Karina Gold est au Honduras et au Guatemala jusqu'à vendredi. La secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international et de la Francophonie a dit qu'elle rencontrera des représentants gouvernementaux et des membres d'organisations de défense des droits de la personne. Elle doit aussi annoncer une aide financière à la mission d'appui à la lutte contre la corruption et l'impunité au Honduras de l'Organisation des États américains. Karina Gold discutera aussi avec des membres de la Commission internationale contre l'impunité du Guatemala. Ottawa, les provinces et les territoires travaillent en ce moment sur le cadre stratégique pour l'agriculture. Le gouvernement Trudeau se tourne depuis déjà quelques jours vers la population pour l'aider à orienter les politiques et programmes futurs via les commentaires des résidents de partout au pays. Des consultations en ligne sont menées en ce moment et prendront fin le 30 novembre. Et ce second questionnaire demande aux gens de se prononcer sur la déclaration de Calgary pour le prochain cadre stratégique. Eh bien, la nouvelle folie des Pokémon Go sur les téléphones intelligents a bien failli tourner au drame samedi soir à Newmarket dans le nord de Toronto. La police régionale de York a confirmé dans une dépêche qu'une femme de 29 ans a été accusée alors qu'elle aurait tiré sur des joueurs de Pokémon Go avec une arme à plomb. Selon les policiers, la femme, Patricia Champagne, était juchée sur un toit et aurait tiré à 4 reprises sur un groupe de personnes s'adonnant au jeu. Personne n'a été blessé lors de l'incident. Conférence post-ministérielle de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et du Canada au Laos. Le Canada a annoncé une contribution de plus de 17 millions de dollars pour ses programmes de renforcement des capacités en matière de sécurité. Le gouvernement Trudeau a précisé dans un communiqué qu'il s'agit notamment du programme de renforcement des capacités antiterroristes, de lutte contre la criminalité et de sûreté et sécurité nucléaire. Il sera question aussi du renforcement de la résilience des communautés des pays membres de l'association par l'adaptation au changement climatique. Le ministre fédéral des Transports vient de publier l'ordre numéro 38, lequel devance l'échéance pour le retrait graduel des wagons-citernes DOT-111 destinés au transport de pétrole brut au 1er novembre 2016. Il est à noter que le ministère a déclaré que ces wagons sont les moins résistants aux impacts. Marc Garneau a dit que cela constitue une autre étape déterminante dans l'amélioration de la sécurité des communautés établies le long des lignes de chemin de fer. Le calendrier permettra ainsi d'accélérer de 6 mois le retrait graduel des anciens wagons. Le sommet SAGE 2016 dédié aux PME des quatre coins du monde se poursuit aujourd'hui à Chicago. L'événement, qui prendra fin jeudi, accueille cette année plus de 15 000 entrepreneurs et dirigeants de PME. Reconnu pour son travail auprès des marchés des solutions comptables sur le cloud, eh bien SAGE a indiqué sur son site web que l'événement regroupe les grandes stars de l'industrie du spectacle et du monde des affaires qui évoqueront leur passion pour leur métier, leur envie de vivre à 100% et leur besoin d'aider les autres. Le comité ministériel du projet d'agrandissement du réseau Trans Mountain poursuit aujourd'hui ses rencontres dans les communautés touchées par le projet. Trois rencontres ont lieu cette semaine, une à Abbotsford et deux autres à Langley en Colombie-Britannique. Au sport, au tennis, à la Coupe Rogers à Toronto, le Canadien Denis Shapovalov a surpris le 19e joueur mondial, l'Australien Nick Kyrgios. Le joueur de 17 ans a vaincu son adversaire en trois manches de 7-6, 3-6 et 6-3. Baseball majeur maintenant, victoire de Toronto 4-2 contre San Diego. Jays et Padres s'affronteront à nouveau ce soir. Football canadien, gain de Toronto 30-17 contre Montréal. Et le comité olympique canadien a annoncé que 313 athlètes prendront part aux Jeux olympiques de Rio dans moins de deux semaines. L'Ontario est la province la plus représentée avec 132 athlètes, suivie de la Colombie-Britannique avec 68 et 54 athlètes sont originaires du Québec.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans cette édition du Débrief. Il est 16h07. On va poursuivre avec les nouvelles provinciales. On a bien sûr à l'avant-plan de l'actualité la crise de l'immobilier qui sévit à Vancouver. La taxe de 15% imposée aux acheteurs étrangers suscite des réactions. Dans le journal La Presse, aujourd'hui, le blogueur Maxime Bergeron, plutôt sur le site web du journal La Presse, donc le blogueur Maxime Bergeron, revient sur cette décision du gouvernement de la Colombie-Britannique d'instaurer une nouvelle taxe destinée aux acheteurs étrangers. Le gouvernement de Colombie-Britannique, écrit-il, a créé la surprise ce lundi en annonçant une nouvelle taxe de 15% destinée aux étrangers qui achèteront un bien immobilier à Vancouver. Cette décision, que plusieurs espéraient sans oser y croire, vise à freiner l'ascension stratosphérique des prix, lesquels, rappelons-le, ont grimpé de 32% depuis un an, écrit le blogueur Maxime Bergeron. Les acheteurs doivent maintenant débourser 918 000 $ en moyenne pour acquérir une propriété dans la région métropolitaine de Vancouver. Pour ce qui est des maisons à étages, à deux étages, il est devenu bien difficile de trouver quoi que ce soit en bas de 2 millions de dollars, écrit-il. Plusieurs estiment à présent que l'Ontario pourrait adopter une politique similaire afin de freiner la croissance marquée des prix dans la région métropolitaine de Toronto. À Toronto, la hausse, indique le blogueur Maxime Bergeron, a été de 13% au cours de la dernière année et 8% au cours des seuls trois derniers mois. Le blogueur se demande en outre si une telle mesure sera adoptée dans d'autres villes et notamment à Montréal. Il estime que c'est peu probable qu'une taxe destinée aux acheteurs étrangers soit effectivement instaurée à Montréal. La situation à Montréal est moins inflationniste, elle est moins inquiétante, mais il pose tout de même la question. Notons plus près de chez nous que le conseil municipal de Victoria souhaite que le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement de Christy Clark, fasse la même chose pour Victoria, donc instaure pour la région de la capitale une taxe semblable à celle qui vient d'être mise en place dans le Grand Vancouver. Toujours à propos de cette crise immobilière et de la taxe de 15% qui entre imminemment en vigueur, il y a un papier dans le Vancouver Sun qui rappelle que la région de Vancouver n'est pas la seule dans le monde à afficher une taxation semblable. Il y a bien d'autres centres urbains qui ont des mécanismes destinés à ralentir un petit peu les ardeurs du marché marché immobilier, particulièrement lorsqu'il est chauffé par les acheteurs étrangers. Alors, cet article qui est signé par Glenn Schaefer dans le Vancouver Sun cite le cas de Hong Kong, par exemple, celui de l'Australie, et mentionne également le Danemark, la Grande-Bretagne, les Philippines et le Mexique. Et dans certaines juridictions, ces taxes sont plus élevées et certaines mesures même interdisent l'accès à la propriété pour les acheteurs étrangers. Donc, ça permet de se situer un petit peu dans le concert mondial là, de l'immobilier et de voir que cette mesure restrictive sur Vancouver n'est pas unique, n'est pas un cas isolé. Donc, voilà pour cette portion obligatoire, dirions-nous, puisque le sujet est si présent dans l'actualité actuellement. Donc, portion sur l'immobilier. On se tourne à présent vers une autre crise, une crise sanitaire qui, à certains égards, est encore plus inquiétante. Elle touche beaucoup la Colombie-Britannique. Vous le devinez peut-être, je parle de la crise des analgésiques opioïdes. Donc, le fentanyl vous est peut-être familier. C'est une crise qui touche non seulement la Colombie-Britannique, qui a déclaré l'état d'urgence en avril dernier, mais l'ensemble du pays à des degrés divers et moindre généralement. Donc, c'est en Colombie-Britannique que la situation est la plus criante. Et on a appris cette semaine que la ministre Jane Philpott est inquiète. Elle suit la situation, dit-elle, et elle estime que le Canada et les États-Unis doivent examiner sérieusement pourquoi ils sont les champions mondiaux de la consommation d'analgésiques opioïdes tels que l'oxycodone et le fentanyl, qui ont causé beaucoup de décès par surdose dernièrement. Selon Jane Philpott, la situation s'est aggravée au Canada depuis 3 ou 4 ans avec des taux accrus de consommation de surdose et de décès liés à ces analgésiques opioïdes. En entrevue avec la presse canadienne, la docteure Philpott a émis certaines hypothèses pour expliquer cette crise nationale de santé publique. Elle a notamment cité les pressions incessantes exercées par l'industrie pharmaceutique sur les professionnels de la santé en Amérique du Nord pour prescrire des analgésiques opioïdes afin de soulager la douleur chronique. Elle est également consciente, indique l'auteur de cet article paru dans la presse canadienne, que les facteurs ayant donné lieu à cette crise sont multiples et peuvent varier d'une province à l'autre. Les opioïdes comprennent les médicaments antidouleurs courants comme l'oxycodone, le fentanyl ou la morphine, mais aussi des drogues illégales comme l'héroïne. La ministre Philpott reconnaît que ces médicaments sont extrêmement efficaces, ce qui constitue paradoxalement une partie du problème. Les gens doivent avoir accès à ces médicaments efficaces, a-t-elle dit, lorsqu'ils sont utilisés avec soin, mais les risques sont énormes. Les gens deviennent effectivement dépendants et certains en meurent. La ministre Philpott a récemment accéléré l'approbation au Canada d'un vaporisateur nasal qui peut freiner ou stopper les effets d'une surdose d'opioïdes. On s'en souviendra, il s'agit d'une substance appelée naloxone, dont il a été question dans l'émission à quelques reprises. Donc, cette substance qui existait déjà à l'état liquide pour injection en centre hospitalier seulement pourra maintenant être administrée d'urgence à l'extérieur de l'hôpital dans les cas de surdose. Madame Philpott croit que cette mesure pourra sauver des vies en aval, mais assure qu'il faut aussi regarder en amont du problème. Rappelons que la Colombie-Britannique a déclaré en avril une urgence de santé publique à la suite de la hausse vertigineuse de cas de surdose mortelle. Selon des données fédérales, 74 personnes plutôt sont mortes de surdose dans cette province en janvier seulement. Si cette tendance devait se maintenir, le bilan pourrait bien être cette année largement supérieur à celui de l'année 2015 qui avait atteint au total 474 morts par surdose. La ministre fédérale, Madame Philpott, a indiqué cette semaine qu'un sommet sur la question de cette consommation de drogue aurait lieu l'automne prochain afin de réunir autour d'une même table spécialistes et intervenants. Selon la ministre, il ne s'agit pas de trouver des coupables, mais de dégager des pistes de solutions. On se tourne à présent vers Pokémon Go. Denis Lépine, dans son bulletin, avait une nouvelle qui touchait ce jeu pour vous dans son bulletin d'aujourd'hui. J'ajoute moi-même à ces faits divers qui deviennent nombreux une autre qui nous arrive de Vancouver. La police de Vancouver a rappelé qu'elle arrêtait tous les conducteurs distraits qui avaient l'inconscience de jouer à Pokémon Go alors qu'ils sont au volant. Alors, elle a rappelé à travers différents tweets il y a quelques jours qu'elle allait sévir et apporter une tolérance zéro donc sur les routes. Et le gouvernement a emboîté le pas et a rappelé aux conducteurs dans un communiqué qu'il était absolument interdit de s'adonner à un jeu lorsqu'on est au volant d'une voiture. Donc, cette application a entraîné une frénésie et avec elle des faits divers comme celui que rapportait Denis Lépine dans son bulletin. Et il y a eu des incidents aussi sur Vancouver. Heureusement, rien de majeur jusqu'à présent. Autrement, je vous signale plutôt que le Comité olympique canadien a annoncé l'équipe complète de 313 athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques de Rio. Donc c'est officiel, le large contingent canadien est composé de 187 femmes et 126 hommes âgés entre 16 et 56 ans. Et la Colombie-Britannique fait très bonne figure dans cette cohorte d'athlètes. Ils sont 68 en provenance de la Colombie-Britannique dans l'équipe canadienne de 313 athlètes. C'est tout juste derrière, en fait, c'est en deuxième position derrière l'Ontario qui envoie, elle, 132 athlètes aux Jeux olympiques de Rio et le Québec en envoie, pour sa part, 54. Voilà, donc ce sont les trois provinces qui envoient le plus d'athlètes à Rio cette année. Vous aurez le détail des statistiques de l'équipe canadienne assez facilement en consultant les nouvelles touchant le Comité olympique canadien paru aujourd'hui. On a, comme je le disais, 21 degrés à l'aéroport de Victoria actuellement et 23 degrés au centre-ville. Il fait très beau et ça va demeurer dégagé en soirée et au cours des prochains jours. La température va continuer de monter. Cette semaine, on a, comme le réclament les gens qui veulent aller à la plage, les gens qui veulent pratiquer certains sports nautiques, des températures véritablement estivales. On va frôler le 30 degrés jeudi et vendredi et le soleil va demeurer dominant jusqu'au lundi 1er août. C'est du moins ce que nous annonce Environnement Canada sur le site météo.gc.ca. On va faire une petite pause et on se retrouve de l'autre côté avec la nouvelle du jour. Pour l'instant, on écoute la formation Aurélie et Verioka. C'est tiré de leur album Pas à pas, la pièce est éponyme Pas à pas. À tout de suite.
Quand on rêve à cœur perdu, sans y croire, sans espérer la lumière après le noir, on oublie parfois d'aller pas à pas, par ici, ou bien par là vers une étoile au-delà, pour éviter de laisser en chemin son bonheur, ses désirs, ses rires, ses pleurs. Et ses ardeurs, il ne reste qu'à se réinventer en jurant de ne plus se lamenter et de se mettre à chanter. Respirer, sourire, souffler, inspirer sans y penser. Évitez d'imiter vos aînés, laissez-vous aller. Écoutez, balancez pour enfin chavirer jusqu'à sentir le bout de vos doigts chatouiller.
Enchantez vos espoirs, mélodie du hasard, histoire de voir, mais qu'à la fin du soir sonne un joli répertoire.
Et allez vers l'inconnu, oubliez vos amours déçus, laissez-les aux objets perdu, prenez la vie du bon côté et laissez-vous chanter. S'ouvrir à vous les émotions, le doux frisson de vivre l'aventure au gré du vent, en décidant de profiter de chaque instant. Et avant tout, avancer sans craindre les errances et les silences, batifoler au gré de l'air et tout à coup surgit devant vous le plus merveilleux des présents. Qui rassemble les siens, celui qui n'a plus peur de rien.
Quand on rêve à cœur perdu, sans y croire, sans espérer la lumière après le noir, on oublie parfois d'aller pas à pas, par ici ou bien par là, vers une étoile au-delà.
Pour éviter de laisser en chemin son bonheur, ses désirs, ses rires, ses pleurs et ses ardeurs, il ne reste qu'à se réinventer en jurant de ne plus se lamenter et de se mettre à chanter.
La formation Aurélie et Verioka, pas à pas dans le débrief. On va passer à présent à la nouvelle du jour. C'est une nouvelle qui nous arrive de France. Impossible de l'ignorer. Ça concerne encore une fois le terrorisme. Malheureusement, on déplore un nouvel attentat en France. La France a été ébranlée à nouveau par une attaque de l'État islamique. Ça s'est passé dans la région de Rouen, en Normandie. Je vous lis un passage, quelques passages d'un texte paru sur le média indépendant français Mediapart, que vous pourrez trouver à l'adresse mediapart.fr. Nouvelle attaque de sympathisants de l'État islamique dans une église en Seine-Maritime. L'organisation de l'État islamique a revendiqué l'attaque intervenue ce mardi 26 juillet, aujourd'hui, contre l'église Saint-Étienne de Rouvray, près de Rouen, par deux individus se revendiquant de l'État islamique. Un prêtre a trouvé la mort, une autre personne a été grièvement blessée. Les deux forcenés ont été abattus. Le parquet antiterroriste est saisi de cette tuerie. Le prêtre auxiliaire Jacques Hamel, né en 1930, à la retraite depuis une dizaine d'années, qui aurait été égorgé, a-t-on précisé, de sources policières. Donc c'est la victime. Une seconde personne aurait été grièvement blessée lors de cette attaque. Certaines personnes ont réussi à fuir. La seconde personne qui est dans un état critique aurait subi une tentative d'égorgement et serait donc à l'heure actuelle, selon différentes sources citées par les médias français, entre la vie et la mort. Une fois l'alerte déclenchée, continue ce texte paru sur Mediapart.fr, le bâtiment a été cerné par les forces de police et de gendarmerie et le quartier a été isolé. Le parquet antiterroriste est saisi de cette affaire. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, l'enquête est confiée à la sous-direction antiterroriste, la SDAT, de la police judiciaire et à la direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, selon un communiqué du procureur de Paris. Il y aurait eu une arrestation dans les dernières heures. Un homme aurait été arrêté suite à des perquisitions qui ont été menées après les faits. Donc ces deux forcenés auraient peut-être eu des complices. Ça reste à déterminer. Alors, on sait pour l'instant qu'ils ont pris en otage 5 personnes qui étaient sur place dans cette église. Le prêtre a trouvé la mort. Une autre personne est en état critique. Donc, selon de premières informations, reprend Mediapart, l'un des deux meurtriers pourrait être un jeune homme de 19 ans, originaire d'une commune avoisinante. Selon Marianne, qui est un journal français, il aurait commencé à se radicaliser par Internet après les attentats de janvier 2015. Rappelez-vous, les attentats de janvier 2015 contre la publication Charlie Hebdo. Arrêté une première fois en Allemagne alors qu'il était encore mineur, donc ce jeune homme de 19 ans qu'on pense être l'auteur, le co-auteur de cette attaque, a tenté une seconde fois de faire le voyage vers la Syrie en passant par Genève. Tout juste majeur, il a par la suite été arrêté au printemps 2015, puis incarcéré quelques temps. Et Mediapart cite à propos de cette dernière information la Tribune de Genève. Donc ce personnage qui était suivi par les services a été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Il aurait été relâché en mars dernier avec un bracelet électronique sur sa personne. Donc voilà pour les soupçons pour le moment. Je ne pouvais pas imaginer qu'une telle chose pourrait nous arriver, a déclaré au journal Libération le père Auguste Mwanda Fouati, curé de nationalité congolaise de la paroisse de Saint-Étienne de Rouvray, où sont survenus les faits. En poste depuis 5 ans, ce curé affirme n'avoir jamais reçu de menaces et se dit bouleversé et consterné. Pour sa part, Mohamed Karabila, qui est président du conseil régional du culte musulman de Normandie, qui travaillait avec le prêtre qui a été assassiné, le prêtre Jacques Hamel, lors de réunions interconfessionnelles régulières. Donc, il le connaissait, le président du conseil régional du culte musulman de Normandie connaissait la victime. Il s'est dit effaré par le décès de son ami. C'est quelqu'un qui a donné sa vie aux autres, a-t-il déclaré. Nous sommes abasourdis à la mosquée, a-t-il précisé. La mosquée de Saint-Étienne du Rouvray, donc qui partageait cette localité avec l'église. Selon le journal Le Monde, Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, qui était en Pologne pour les Journées mondiales de la jeunesse qui se déroulent actuellement, devrait rentrer le plus rapidement possible en France, tout comme un autre Monseigneur, Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France, qui était lui aussi en Pologne. Dans un communiqué du Vatican, le pape François s'associe à la douleur et à l'horreur et condamne de la manière la plus radicale l'attaque de ce matin. Nous sommes particulièrement frappés, a dit le souverain pontife, parce que cette violence horrible est intervenue dans une église, un lieu sacré où s'annonce l'amour de Dieu, avec le meurtre barbare d'un prêtre et des fidèles touchés, a indiqué le pape dans ce communiqué rendu public par le Vatican. Donc voilà, un nouvel attentat qui crée encore une fois la consternation en France et dans le monde. Donc il fait suite à l'attentat perpétré contre l'équipe du journal satirique Charlie Hebdo en janvier 2015. Il fait suite à l'attaque commise contre la boîte Le Bataclan en novembre 2015 lors d'un concert de rock. Et bien sûr, il fait suite à cette terrible tuerie du 14 juillet survenue il y a quelques jours à peine, moins de 2 semaines, qui a fait plus de 80 morts à Nice le 14 juillet. Et donc maintenant, ce nouvel attentat s'ajoute à la liste trop longue depuis le début, finalement. Voilà, donc le gouvernement réagit. J'imagine qu'on aura d'autres annonces de la part de l'exécutif français. On sait que l'état d'urgence est toujours en vigueur. Il a été prolongé au lendemain lendemain de l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. Alors, est-ce que les mesures de sécurité et de surveillance vont être durcies prochainement? Ça reste à voir. C'est en tout cas le souhait de la droite française qui presse le gouvernement socialiste de François Hollande de serrer encore plus les mesures sécuritaires, quitte à revoir certaines dispositions constitutionnelles concernant les droits. On va retourner en musique quelques instants. Au retour, l'agenda culturel. Pour l'instant, on écoute une pièce de la formation française La Femme, intitulée Sphinx. À tout de suite. La formation La Femme dans le débrief, 16h33. Merci d'être à l'écoute de CILS. On va se pencher sur l'agenda culturel quelques instants. Il y a de belles activités sur Victoria ce soir. Une activité cinéphilique en premier lieu. Comme j'ai l'habitude de vous proposer toujours une sortie cinéma. Ce soir, à Ciné Santa, le cinéma d'art et d'essai du campus de l'Université Victoria, on présente un film français, et pas n'importe lequel. Il s'agit d'Amélie, sans doute un des films français des 20 dernières années les plus connus. Si on devait faire un petit sondage trottoir à Victoria et demander aux gens de nommer un film français, sans doute que ceux qui en seraient capables nommeraient certainement Amélie parmi les quelques titres qui leur viennent à la mémoire. Donc Amélie, c'est un long métrage de 2001 signé Jean-Pierre Jeunet. C'est un long métrage de 123 minutes. Il sera présenté à 19h et 21h25 avec sous-titres, ce qui veut dire que vous pouvez emmener avec vous vos amis anglophones, francophiles. Revoir sans doute ce film, voir ou revoir ce film, je ne serais pas étonné que certains des cinéphiles dans la salle aient vu le film plusieurs fois et qu'ils y retournent par pur plaisir. C'est un film culte dont on pourrait discuter longuement, mais c'est pas l'objet. C'est un favori du public, du grand public. C'est un film qui a vraiment touché une corde sensible au moment de sa sortie et qui est resté très aimé par la suite. Donc voilà pour la sortie cinéma de ce soir, Amélie à Ciné Santa à 19h et 21h15. Autrement, je vous parle d'une activité qui a lieu ces jours-ci au Carré Saint-Agnol, au centre-ville de Victoria, angle Douglas et Government. Comme à tous les midis, il y a une activité sur la place, sur le carré, donc on peut assister la plupart du temps à de la musique. Parfois, c'est même participatif. Et en l'occurrence, ces jours-ci, c'est le Festival de l'accordéon de Victoria qui s'installe et qui prend possession du Carré Saint-Agnol. Donc, c'est arrivé aujourd'hui, mais ça se poursuit également demain et jeudi, donc les 27 et 28 juillet, sur l'heure du midi, lors de votre pause du lunch. N'hésitez pas à vous transporter du côté du Square Saint-Agnol où le Festival de l'accordéon de Victoria battra son plein. Donc, de belles découvertes assurément à faire sur le square à cette occasion. Donc c'est toujours entre midi et 13h et c'est toujours par ailleurs gratuit. Alors profitez-en si vous êtes dans les parages. On va maintenant s'arrêter pour une petite une courte pause musicale et on se retrouve dès le retour pour la revue de presse. Alors, dans cette revue de presse, on revient évidemment sur cet attentat commis aujourd'hui en France dans une église. On saisit donc l'occasion pour approfondir la question du terrorisme qui sévit en Europe et particulièrement en France. L'article que je vous propose a été publié avant que cet attentat commis dans une église survienne ce matin. Donc, mais il est encore très pertinent, vous allez voir. Donc c'est un article, oui, mais plutôt un entretien, en fait, réalisé par le portail Mediapart avec Olivier Roy, donc un spécialiste de ces questions de terrorisme. Je vous en lis quelques passages, c'est un long entretien, c'est difficile de choisir, il y a d'excellents passages, je vais tenter de vous en donner le meilleur. Après la revendication par l'État islamique de l'attentat de Nice, puis celui d'Ansbach en Allemagne, commis par des tueurs au profil psychologique lourd, assiste-t-on à une nouvelle métamorphose du djihadisme, demande Mediapart. Entretien avec Olivier Roy, spécialiste de l'islam et du phénomène djihadiste. Olivier Roy, indique Mediapart, est professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, en Italie, où il dirige le programme méditerranéen. Il est notamment l'auteur de l'Islam mondialisé, publié au Seuil 2002, et d'un livre intitulé La Sainte Ignorance, publié au Seuil également en 2008. Question de l'équipe éditoriale de Mediapart à Olivier Roy. Au regard des éléments actuels de l'enquête, peut-on qualifier la tuerie de Nice sur la promenade des Anglais d'attentat djihadiste? Réponse d'Olivier Roy. Je suis comme vous dépendant de l'enquête de police. On nous a d'abord dit qu'on avait affaire à un type isolé, à un cas psychiatrique. Maintenant, il semblerait qu'il y ait des complices, une préparation, des contacts. On se trouve dans un terrorisme de nature mixte, disposant d'un spectre allant du militant aguerri et formé en Syrie, de type Abdelhamid Abaoud, au loser à fort problème psychiatrique qui inscrit son action dans le scénario Daesh, car cela donne une valeur supérieure à son action, croit-il. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il existe aujourd'hui une telle prévalence du narratif Daesh que toute une gamme de personnes d'origine et de motivations variées peuvent entrer dans ce paradigme. Voilà pour la première réponse. Nouvelle question de l'équipe éditoriale de Mediapart. La revendication tardive par l'organisation État islamique de la tuerie de Nice, commise par quelqu'un dont le profil ne correspond guère aux soldats classiques du califat, bisexuel, éloigné de l'islam, sans contact avec la Syrie ou l'Irak. Donc, la question c'est finalement la revendication tardive par l'organisation État islamique ou la revendication de l'attentat d'Ansbach en Allemagne vous semble-t-elle opportuniste, demandent les journalistes de Mediapart. Les deux à la fois, c'est la réponse d'Olivier Roy dans cet entretien. Il arrive à Daesh ce qui est arrivé à Al-Qaïda, qui montait des coups très bien préparés par des commandos, mais récupérait aussi des actions de loser et de loner, donc de loup solitaire. Le problème n'est pas ce qui se passe dans l'état-major d'Al-Qaïda ou Daesh, mais à la marge, avec un réservoir de radicalisation transversale composé de jeunes nihilistes qui, selon qu'ils se réclament ou non de Daesh, modifient le sens et la résonance de leurs actes. Peut-être le tueur d'Orlando aurait-il de toute façon attaqué une boîte de nuit gay, mais il a mis son acte sous l'étiquette Daesh pour être certain d'en amplifier le bruit. Mais on prend les choses à l'envers si on ne voit pas les choses qu'à travers la stratégie de l'organisation Daesh. Il faut d'abord saisir que sous le narratif Daesh se radicalisent violemment des catégories très différentes de la population, des militants politiques mais aussi des suicidaires. Question de l'équipe de journalistes de Mediapart. Peut-on lier des attentats comme ceux d'Orlando, Nice et Ansbach aux pertes de terrain subies par l'État islamique sur les territoires irakiens et syriens? Réponse d'Olivier Roy. Certainement, oui. Daesh ne revendiquait jusque-là que des attentats qu'il avait lui-même organisés. Désormais, il revendique un peu n'importe quoi, même si cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de contact entre l'État islamique et les tueurs d'Orlando ou de Nice. Daesh fait en ce moment feu de tout bois en frappant complètement au hasard, alors qu'Al-Qaïda, avant eux, s'efforçait de choisir des cibles symboliques. Non pas dans la perspective de soulever les musulmans partout dans le monde, en créant une guerre de civilisation, comme le pense Gilles Kepel, qui est un autre commentateur fréquent de ces questions, mais plutôt pour obliger les Occidentaux à renoncer à leurs frappes, parce que les frappes font mal à l'État islamique. Et question des journalistes, tout de suite, qui saisissent l'occasion de demander si François Hollande, le président français, a eu raison d'annoncer tout de suite après l'attentat de Nice l'intensification des frappes françaises en Irak et en Syrie. Non, répond Olivier Roy, parce que cela ne fait que continuer l'escalade sans se donner les moyens de vaincre. On reste dans l'incantatoire et non dans l'analyse froide du rapport de force. On ne va pas se débarrasser de Daesh dans les 6 mois. Il faudrait pour cela envoyer des dizaines de milliers de troupes au sol. Par ailleurs, l'éradication des places fortes de Daesh en Syrie et en Irak ne mettra pas fin à la radicalisation de jeunes nihilistes pour lesquels il n'existe pas d'action militaire possible et au sujet desquels il faudrait commencer par abandonner la fausse piste salafiste trop longuement suivie par le gouvernement français. Les djihadistes ne viennent pas des mosquées salafistes, indique Olivier Roy dans cet entretien. Que faire alors, demande l'équipe de Mediapart. Sur le terrain, l'action passe par une liaison avec les acteurs locaux. Je vous laisse lire la suite, c'est sur mediapart.fr. Le temps imparti nous presse de poursuivre. On va aller à l'interview du jour dans quelques instants. Je vous le disais en entrée d'émission, j'ai le plaisir aujourd'hui m'entretenir avec Louis Gagnon, un résident de Milan en Italie, qui va nous situer sur le calendrier démocratique italien de l'année 2016. On écoute ça dans quelques instants. Vous êtes dans le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. On passe maintenant à la portion interview de l'émission. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Louis Gagnon, qui habite Milan, en Italie. On s'entretient à propos de la situation politique en Italie actuellement, où deux référendums occupent le calendrier politique. Un premier référendum a eu lieu en avril cette année, et un autre référendum un peu plus important, celui-là, aura lieu dans quelques mois. Bonjour Louis.
Bonjour Alexis.
Alors, je précise, par égard pour la transparence et par souci de transparence totale, que tu es mon fratello, c'est-à-dire mon frère, et oui. Donc tu es établi à Milan depuis quelques années. Peux-tu m'indiquer pour les auditeurs ce que tu fais à Milan?
Okay, moi, je fais de la recherche au Politecnico di Milano, qui est une université technique. Et je m'occupe principalement d'aérospatial.
Formidable. Donc, si tu es à l'étape postdoctorale, n'est-ce pas?
Exactement.
Et tu avais débuté tes études au Canada, donc au Québec, à l'Université Laval. Donc, Polytechnico, pour ceux qui n'avaient pas l'oreille fine, c'est tout simplement l'École Polytechnique de Milan. Alors, Louis, aujourd'hui, on se parle de l'agenda politique italien. On sait qu'il y a eu un référendum très important en Grande-Bretagne le 23 juin, le référendum du Brexit. Les deux référendums dont on parle ne concerne pas la sortie de l'Italie de l'Union européenne, mais ils ont quand même leur importance. Donc, est-ce qu'on peut parler du premier référendum qui a eu lieu en avril?
Oui, alors le premier référendum duquel j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le référendum sur le forage en mer en Italie, qui a eu lieu justement, comme tu as dit, en avril.
Oui.
Et l'objet de la question, en fait, qui était posée aux citoyens, c'est est-ce que le gouvernement doit renouveler les concessions, doit permettre le renouvellement des concessions
oui.
De forage pour les gaz et le pétrole
oui.
Dans la mer Méditerranée. Et par contre, qu'est-ce qui est arrivé avec ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'intérêts politiques plus que d'intérêts environnementaux. Dans la déclaration du référendum qui a été demandée par les régions italiennes. Donc, les régions, c'est un peu comme les provinces canadiennes.
D'accord.
Parce que le non-renouvellement des forages impliquait que ça pouvait être l'État qui allait avoir la juridiction sur ces forages-là au lieu de demeurer, comme c'est présentement, les régions.
Ah, OK.
Qui décident. Le référendum pourrait être... pour être valide,
oui.
doit avoir été faite avec le quorum, donc avec 50% des Italiens en âge de voter.
D'accord. Donc le quorum n'a pas été atteint.
Exactement.
Oui, autour de toi, les gens parmi tes amis, ils votaient comment pour ce référendum-là?
Beaucoup de confusion. Je pense que personne n'avait une idée très claire sur quoi voter, à cause justement qu'on n'était pas certain quelles seraient les conséquences.
Oui.
Je connais des gens qui sont abstenus. Et il y a aussi, je dois dire qu'en Italie, pour voter, on doit se présenter dans la région de résidence, qui n'est pas toujours la même que la région du domicile. Donc moi, au Polytechnico, par exemple, je travaille avec... d'autres postdoctorats ou même d'autres chercheurs, des assistants, des associés de recherche, qui ont la résidence peut-être en Puglia ou en Sicile ou
oui.
très loin, et le domicile à Milan. Donc, pour voter, ils devraient se présenter là où ils n'habitent pas. Et bon, c'est pas pratique, donc ils ne votent pas.
OK. Donc, il n'y a pas d'issue claire à ce référendum puisque le quorum n'a pas été atteint. Est-ce qu'il y aura une seconde ronde? Est-ce qu'on va tenter à nouveau de poser la question à la population?
Non, la question ne sera pas posée à nouveau.
Bon, d'accord. Est-ce que on peut passer maintenant au référendum qui, je crois, occupe davantage les esprits et fait couler beaucoup plus d'encre actuellement? C'est un référendum qui se tiendra cet automne. C'est un référendum qui porte sur une question constitutionnelle et qui a été annoncé par le Premier ministre.
Oui, on n'a pas encore de date exacte. C'est un référendum qui viendra modifier la Constitution.
Oui.
De mémoire comme ça, je dirais que la Constitution a environ 150 articles et on voudra en modifier 47. Donc, près d'un tiers des articles de la Constitution seraient modifiés par ce référendum-là. Et les raisons derrière toutes ces modifications-là, donc c'est une grande quantité, c'est la simplification. La simplification des processus de création de lois.
D'accord.
Qui permettent au gouvernement d'être plus à jour, disons, avec les changements sociaux.
Donc, c'est trop lourd, le processus législatif est jugé trop lourd en Italie? C'est difficile de faire adopter des lois?
Oui, le processus est jugé trop lourd. Je pense que la majeure partie des Italiens sont d'accord avec ça, sans nécessairement être d'accord avec le référendum, mais je pense qu'il y a quand même un consensus sur le fait que les lois prennent beaucoup de temps à être écrites. Et il n'y a pas toujours des consensus, donc elles ont plusieurs modifications qui sont insérées ci et là, pour permettre de les faire passer. De les faire devenir des lois effectives. Et bon, c'est peut-être pas toujours apprécié par le peuple italien.
Et concrètement, concrètement, qu'est-ce qui changerait si les propositions de Matteo Renzi sont acceptées par le peuple italien?
On enlèverait un certain pouvoir aux régions. Donc, comme je disais avant, les régions, c'est un peu comme les provinces canadiennes.
Oui.
Et on enlèverait aussi les provinces de la Constitution. Donc, les provinces, contrairement au Canada, sont plus comme des communautés urbaines. Donc, c'est une mini-région. Donc, on a l'État, ensuite, on a les régions, et ensuite, on a les provinces. Une province, en général, va faire peut-être 100 km par 100 km, pour donner une idée, même moins. Non, je dirais moins que ça.
Oui.
Elles n'ont pas beaucoup de pouvoir en ce moment, mais elles gèrent certains fonds et attribuent des financements à certains projets. Légifèrent aussi, je pourrais pas te dire exactement en quel terme, mais l'idée c'est de les enlever, donc de simplifier et de réduire les coûts du gouvernement.
C'est quelque chose qu'on a vu en France, entre parenthèses, les régions ont été consolidées et sont moins nombreuses à présent. C'est une réforme assez récente, donc ça semble s'inscrire dans un mouvement. Mais le Premier ministre Matteo Renzi s'intéresse aussi au Sénat. Que veut-il faire du Sénat?
Oui. Pratiquement l'abolir ou, disons... Le Sénat, en ce moment, a 315 représentants, sénateurs, qui sont élus. Les sénateurs sont élus par les citoyens italiens ayant 25 ans ou plus. Donc, contrairement aux députés de la Chambre des députés, qui sont 630, les sénateurs ne sont pas élus par les gens de 18 ans et plus, mais bien par les gens de 25 ans et plus. Et pour être sénateur, on doit avoir au moins 40 ans. Donc, c'est comme un peu la sagesse qui supervise le gouvernement. Et comme au Canada, le Sénat doit approuver toutes les lois qui sont créées, qui sont proposées par la Chambre des députés. Donc, on a la Chambre des députés écrit les lois, les propose, les vote, et ensuite, ça doit passer par le Sénat pour devenir une loi effective.
Mais au Canada, le Sénat réussit rarement au Canada à paralyser la législation ou à la renverser, bien qu'il exerce quand même un certain pouvoir. Mais en Italie, je crois, si j'entends bien, que le Sénat actuellement est en mesure de paralyser quelque part l'exercice de l'État.
Oui.
Et la législation.
Demander des modifications
Oui.
Et ralentir le processus de création de loi.
Donc, j'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients, finalement, à la réforme voulue par Renzi.
Ah oui, certainement. Il y a certains avantages, certains inconvénients, mais il faut aussi tenir compte que la Constitution n'est pas si vieille que ça. Elle a été écrite en 1947. Elle est entrée en vigueur au début 1948. Donc, c'est une Constitution qui a été pensée tout après la guerre.
Oui.
Donc, il y a ça aussi que je pense que c'est important de tenir en compte, qu'il faut faire attention pour modifier une Constitution qui a été écrite par des gens qui sortaient d'une guerre qui avait été très difficile. Et donc, ils ont probablement tous leurs efforts pour créer une constitution solide qui allait protéger les Italiens d'un autre gouvernement. Parce que
d'un gouvernement dictatorial, par exemple.
Oui, c'était un gouvernement qui n'était pas élu. C'était une dictature. Donc, quand on parle de concentrer le pouvoir, parce que là, si on enlève le Sénat, ben, on concentre le pouvoir à l'État. On enlève les provinces, on concentre encore le pouvoir. On réduit aussi le pouvoir des régions. En
oui.
quelque sorte, certaines compétences retournent directement à l'État au lieu d'être comme elles sont présentement dans les régions.
Oui.
Et on enlève aussi un comité qui est, ce qu'on dit, pas très utile en ce moment, mais c'est un comité consultatif du gouvernement sur les lois qui concernent le travail.
OK. Donc, c'est un nettoyage qui est voulu par Renzi. On ne connaît pas encore la date du référendum, mais on estime que ce sera au cours de l'automne. Et les gens qui font le parallèle avec le Brexit, ce qu'on leur répond, c'est que ça n'est pas le même type de référendum. Cependant, Matteo Renzi a bien dit qu'il allait démissionner s'il perdait sa réforme, donc la réforme qu'il veut mener par référendum.
Oui.
Donc,
c'est pas seulement sa réforme, c'est une réforme qui a été aussi voulue par Berlusconi, par exemple.
Oui, prédécesseur, oui.
Mais le parti de Berlusconi a changé d'idée suite à des querelles politiques, et c'est pour ça qu'il y a un référendum en ce moment.
Ah.
Si la réforme avait été approuvée avec la... Je ne pourrais pas dire la proportion, mais une proportion très élevée des députés, il n'y aurait pas eu besoin d'être approuvé par référendum après.
D'accord. En tout cas, si Renzi perd ce référendum sur la réforme des chambres du système parlementaire italien, il a promis de démissionner. Et là, est-ce que ça ouvrirait la porte au mouvement 5 étoiles qui est très populiste et anti-Europe par ailleurs?
C'est une possibilité. Le mouvement 5 étoiles est effectivement très populiste. De là à dire qu'il est anti-Europe, c'est peut-être aller un peu loin. En fait, c'est que le mouvement 5 étoiles est imprévisible. C'est plus ça
oui.
qui le détermine. Donc, c'est pas... Parce qu'il n'est pas... Il n'y a pas une consolidation. Il n'y a pas beaucoup d'accord entre les différentes régions, par exemple, les différents représentants des différentes régions
oui.
qui font partie du mouvement 5 étoiles. Parce que c'est n'importe qui peut devenir député.
Donc la plateforme du parti n'est pas claire, elle n'est pas cristallisée. Il y a toutes sortes d'opinions.
Il y a certaines règles.
Oui.
C'est qu'ils n'ont pas encore le pouvoir. Mais en ce moment, ils ont le pouvoir à Rome, donc parce que
avec la nouvelle maire. Oui.
Oui, il y a la mairesse de Rome et il y a aussi à Turin, le maire de Turin.
Ah oui, c'est vrai.
Donc ça va être une occasion d'observer ce qu'ils font. Mais toujours est-il que je ne dirais pas que c'est un mouvement anti-Europe. C'est sûr qu'on peut ça pourrait être un peu épeurant de voir un parti populiste au pouvoir.
Pour les voisins européens, en tout cas, ça pourrait être inquiétant un petit peu. En tout cas, ceux qui tiennent le plus à l'Europe.
Le parti le plus inquiétant, ce serait le parti Lega. Ils appellent Lega, ce serait oui. la Ligue du Nord en Italie, qui est un parti
d'extrême droite.
Bon, je pense qu'à l'extérieur, oui, on le caractérise d'extrême droite, et probablement avec raison, qui veut la séparation du Nord et du Sud de l'Italie.
Mm.
Et aussi met beaucoup en question l'Europe. C'est un parti un peu basé sur le la promotion de la haine,
oui.
Laisser les immigrants chez eux, les laisser dans la mer, pas leur donner aucune aide. Toujours les Italiens d'abord, c'est un peu ça leur slogan.
Bon, ben voyons d'abord le résultat du référendum et voyons d'abord la date. Peut-être qu'il faut espérons qu'il aura lieu. En tout cas, si ça permet aux Italiens d'exprimer leur volonté. Luigi Gagnon à Milan.
Oui.
Qui, j'espère, deviendra notre correspondant italien à l'émission Le Débrief. Sensationnel. Merci pour ton éclairage sur ces deux référendums qui ont eu lieu cette année. Donc, un qui vient tout juste d'avoir lieu et un qui aura lieu au cours de l'automne.
Ça fait plaisir. J'espère avoir été informatif.
Merci, Louis. À bientôt.
C'était Louis Gagnon que nous avons rejoint à Milan où il poursuit ses recherches à l'École Polytechnique de Milan. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain, bien sûr, à la même heure, comme d'habitude. En attendant, je vous rementionne qu'il le fait 23 actuellement à Victoria. Journée d'été sans nuages. Il fait 21 à l'aéroport et Environnement Canada nous prédit du très beau temps pour les prochains jours. Le soleil va dominer jusqu'au lundi 1er août, si on en croit les prévisions d'Environnement Canada sur le site météo.gc.ca. Merci d'avoir été avec nous pour cette heure d'info. Dans un instant, ce sera Allô la planète. Excellente soirée à tous.